والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. On continue. On était rendu à la partie où le cheikh dit: قال فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها أو يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. Donc ici le cheikh explique, il dit quand le cheikh a dit sache que l'adoration ne peut pas être appelée une adoration excepté si elle est sur le tawhid ou établie sur le tawhid, comme la salat ne peut pas être appelée salat excepté si elle est faite avec la pureté, mon état de pureté. Alors, lorsque tu as su que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour son adoration, donc sache que l'adoration ne peut pas être correcte et ne peut pas être agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si elle a respecté deux conditions. Et si une de ces deux conditions-là est manquante, elle est annulée. L'action est annulée. Donc il faut qu'il y ait ces deux conditions-là, il faut que ces deux conditions-là soient respectées. Et le cheikh, il les explique. Il dit, la première condition, الشرط الأول, أن تكون خالصة لوجه الله ليس فيها شرك فإن خالطها شرك بطلت مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك هذا الشرط الأول. Le cheikh explique que la première condition c'est que ton adoration doit être uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'il y ait dedans aucune forme de shirk. S'il y a une forme de shirk dedans, elle est annulée, cette action-là. Elle n'a plus de valeur. Comme la purification, lorsqu'elle est mélangée avec une impureté, eh bien, cette impureté-là n'a plus de valeur. La même chose pour l'adoration. Donc, si tu adores Allah et que tu as accompli quelque chose qui a rapport avec le shirk dedans, eh bien, cette adoration-là n'a plus de valeur, et ça c'est la première condition. Et cette première condition-là, beaucoup des êtres humains, même parmi les musulmans, parfois ils ne la prennent pas en considération, et même parfois ils la négligent, ils ne réalisent pas son importance. Surtout comme quand par exemple vous regardez des musulmans, quand ils parlent à propos des autres religions, des gens qui pratiquent le christianisme, qui pratiquent le judaïsme, et puis, il les voit en train de faire des formes de prière, il les voit en train de faire, wa alaykoum salam, il les voit en train de faire le jeûne, il les voit en train de faire de la charité, ou d'avoir de la bonté envers les autres, d'être poli, d'avoir un bon comportement, d'avoir un bon caractère, et eux, ils s'imaginent, regardez, ces gens-là, comment ils font du bien, comment ils agissent bien, comment ils font des bonnes choses, et ils s'imaginent que, par exemple, de nourrir les pauvres, de faire toutes ces actions-là, pour eux, c'est des bonnes actions et que c'est des adorations. Alors qu'en réalité, comme le cheikh a dit, étant donné que ces gens-là, ils font des bonnes actions et qu'ils ont des bonnes choses, mais qu'ils ne le font pas avec le tawhid, eh bien, ça n'a aucune valeur pour eux. Et au jugement dernier, ça n'aura aucun poids pour eux parce qu'ils ne l'ont pas fait en le faisant, en se basant sur le tawhid. Donc, c'est pas la question de juste être bon, puis de faire le bien et d'obéir à Allah. Si tu obéis à Allah mais que tu en même temps tu fais du shirk, eh bien, ton action que tu fais, elle sera annulée et n'aura plus de valeur. Ok? Donc ça c'est la première condition. Après le cheikh il continue, il dit الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فأي عبادة لم تأتي أو لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة وخرافة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالاستحسانات لا باستحسانات الناس ولا نياتهم نعم ومقاصدهم كما دام ومقاصدهم ما دام أنها لم يدلل عليها دليل من الشرع فهي بدعة لا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. Oui. Le Cheikh dit que la deuxième condition, ça c'est aussi une condition très importante et beaucoup de musulmans ont de la difficulté à comprendre cette condition-là. Ok? Et c'est la condition que tu dois suivre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fik. Donc, tu dois suivre l'exemple du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute adoration que tu fais, et que tu, si tu ne l'as pas fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de le faire, et t'a montré de le faire, cette adoration-là ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement elle ne sera pas acceptée, non seulement elle sera nulle, mais elle sera rejetée, refusée par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une innovation, une bid'a, hein, et une khurafa, une superstition, quelque chose qui a été inventé, qui ne fait pas partie de la religion. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de musulmans ne comprennent pas, yani, quand on leur dit, attention, ça c'est une bid'a, yani, beaucoup d'entre les musulmans, ils disent, mais pourquoi c'est une bid'a? Pourquoi vous dites que c'est bid'a? Hein? Il y en a qui pensent que le mot bid'a, c'est pas quelque chose de mauvais. Ils vont dire, ouais, c'est bid'a, mais c'est pas haram. Hein? Il y en a qui pensent ça. Mais si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de faire des bid'a, ça veut dire que de faire des bid'a, c'est haram. Hein? Toutes les bid'a, c'est haram. Et c'est un péché de faire des bid'a. Et c'est pire qu'un simple péché. C'est comme si tu inventes dans la religion d'Allah des lois et des règles que Allah n'a pas révélées. Donc tu te places tu te mets à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala comme législateur dans les lois d'Allah et dans les règles d'adoration. Donc ça c'est dangereux. Ok? Et donc le Cheikh il dit que ton action, non seulement elle doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la première condition, la deuxième condition, elle doit être en accord avec l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et elle doit suivre cet exemple-là dans les adorations. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action, hein, et que ça ne fait pas partie de notre, elle ne fait pas partie de notre religion, cette action sera rejetée. Hein? Donc, peu importe la quantité de cette action-là que tu vas faire, même si en fait, beaucoup, elle ne sera jamais acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est pas une action à la base qui est acceptée, ça fait pas partie de l'islam. Donc, ce ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre narration, celui qui invente dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. C'est-à-dire, cette invention-là sera rejetée. Donc, ça veut dire que toute action, toute chose que tu fais dans la religion, si ça ne fait pas partie de la sharia, si ce n'est pas révélé dans le Coran et dans la sunna, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas ordonné ou incité les gens à le faire, eh bien, ça ne fait pas partie de l'islam. Et il ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les bid'a sont des innovations. Toutes les bid'a sont des égarements. Il n'y a pas des bonnes bid'a et des mauvaises. Comme certains, parmi les gens de bid'a, ils essaient de justifier. Hein? Et si vous voulez savoir qui sont les gens de bid'a, des fois vous vous posez des questions. C'est qui les gens de bid'a? Vous voulez les reconnaître? Eh bien c'est bien facile, quand ils viennent vous parler, ils vous disent qu'il y a des bonnes bid'a. Hein? C'est bien simple, yani. Parce que si quelqu'un il fait des bid'ah, il ne veut pas admettre que ce qu'il fait c'est mal. Il essaie de le justifier, de le rendre bien. Alors il essaie de dire qu'il y a des bonnes bid'ah. D'accord? Donc le cheikh il dit que l'adoration, comment on se fait pour. Parce qu'il y a, il y a deux formes de bid'ah. En fait, les ulama ont expliqué, il y a al-bid'ah al-asliya ou al-bid'ah al-idafiya. Ça, c'est des fois, ça mélange des gens parfois. Mais en fait, c'est simple à comprendre. C'est qu'il y a des choses qui sont des bid'a à la base. Il y a des choses qui sont à la base bid'a parce qu'elles ne font pas partie du tout de la charia. Tout le monde sait que ça ne fait pas partie de la charia. Ok? Et ça, c'est des bid'a qui sont à la base des innovations. Toutefois, il y a des bid'a qui sont, à la base, ça fait partie de la charia, sauf que la façon de le faire, c'est bid'a. Hein? Ou le moment où tu veux le faire, précisément, c'est bid'a. Donc, on l'appelle bid'a idrafiyya. Parce que c'est quelque chose que tu prends qui fait partie de la charia, mais tu rajoutes à cette adoration-là des choses qui font que ça devient une bid'a. Hein? Et ça, cette deuxième forme de bid'a, là, c'est ça qui mélange beaucoup de gens. Parce qu'ils font des choses qui sont bien. Comme par exemple, quelqu'un dit, moi, je fais le dua. Dua, c'est pas mauvais. Comment? Tu me dis que je fais une bid'a. L'islam nous enseigne de faire le dua. Oui, mais comment tu fais le dua? La façon que tu le fais, précisément, c'est pas comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a pas montré faire dua de cette façon. Hein? Tu te mets en groupe, puis là, on commence tous à réciter Allah, 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 comme ça, pendant 2-3 heures. Et puis là, on dit, qu'on fait une chose qui est bonne. Hein? On fait rien de mal. On mentionne le nom d'Allah. Oui, c'est vrai. Tu, en apparence, on dirait pas que tu fais quelque chose de mal, sauf que qu'est-ce que tu fais, c'est en contradiction avec l'exemple de ce que le professeur Lansan nous a enseigné. Et si ce que tu fais, c'était vraiment bon, le premier qui l'aurait fait, c'est le professeur Lansan. Et le premier qui l'aurait fait, c'est les Sahaba. Mais eux, ils l'ont pas fait. Le professeur Lansan ne l'a pas fait. Donc, ils sont meilleurs que toi, ils sont meilleurs que moi, et ils l'ont pas fait. Donc ça veut dire, tu veux les imiter dans, tu veux pas les suivre, tu veux suivre quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre et qui a été ajouté à la religion. Et donc ça c'était bid'a, c'est des innovations. Hein? Donc ça c'est la différence. C'est un exemple que beaucoup de gens peuvent pas comprendre. Le Ramadan par exemple, et ça se fait dans le mois de Ramadan. Tu peux pas dire je vais faire le Ramadan mais pas maintenant, je vais le faire dans un autre mois. Ou bien le Hajj. Tu dis je vais pas faire le Hajj dans Zul Hijjah. J'aime mieux faire le Hajj dans le mois de Ramadan. Mais tu peux pas. Il y a des temps, Allah a voulu que ce soit dans cette période-là, et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Hein? Donc, il y a des bid'as de cette catégorie-là, yani. Si quelqu'un, par exemple, vous dit, il y a 6 salats obligatoires dans la prière, dans l'islam, là, vous pouvez lui dire, non, ça, c'est une bid'a asliya. Tu veux faire quelque chose? Bon, la salat, c'est sûr, c'est obligatoire. Ça fait partie de l'islam. Il y a des prières obligatoires, mais tu dis, tu veux en rajouter une sixième. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein? Tu dis, je veux faire plus. Aujourd'hui, au temps des sahabas, les gens étaient pieux, ils avaient la foi, ils avaient l'iman. Nous, aujourd'hui, on est faibles, on a plein de péchés. On a besoin de faire plus d'efforts que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que les sahabas. Donc, on va faire 6 prières obligatoires. Ou bien, au lieu de faire 4 rak'ats dans la prière de l'Asr, on va faire 5, 6, 7, 8 rak'ats pour faire plus d'efforts. Et bien, ça aussi, tout ça, c'est des bid'as dans la religion. Pardon? Exactement, il ne restera plus rien. Et si on peut ajouter des choses, on peut en enlever aussi. Hein? Si c'est permis de faire des bid'as en ajout, eh bien, dans ce cas-là, il faut aussi permettre d'enlever. Hein? Et si, donc, dans ce cas-là aussi, ça veut dire qu'il ne resterait plus comme le pharisie. Si c'était le cas, il ne resterait plus rien de la religion. Chacun ferait ce qu'il veut de la religion selon ses désirs. Comme si un, il fait une bid'a, il dit, pour moi, je trouve que ça, c'est bon. Donc, pour moi, ça, c'est une bonne bid'a. Et l'autre, il dit, selon moi, non, c'est pas une bonne bid'a, mais ce serait mieux de faire cette bid'a-là. Donc, chacun, des fois, même entre les gens de bid'a, ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent, non, ça, lui, il dit, il y a des bonnes bid'a, lui, il dit, il y a des bonnes bid'a. Mais lui, il dit, cette bid'a est bonne, puis lui, il dit qu'elle est pas bonne. Alors, sur quoi il se base pour dire qu'elle est bonne ou qu'elle est pas bonne? Il se base sur sa raison, ou bien il se base sur les preuves du texte du Coran et de la Sunna? Hein? Ou bien il se base sur ses désirs et ses passions? Donc c'est ça la raison pourquoi Allah a interdit les innovations. Et les innovations, c'est une des causes de la division entre les musulmans. Et c'est ça qui fait que la Oumma se divise en différents groupes et en différentes sectes. Et c'est ça le danger des innovations. D'accord? Donc le cheikh il dit, il faut pas juste que tu regardes à qu'est-ce que les gens trouvent bon. Hein, selon moi, je trouve que ça c'est bon. Ou selon leur intention. Il y a beaucoup de gens aussi qui se trompent à ça. Ils disent, moi j'ai une bonne intention. C'est-à-dire, je fais cette bid'a, mais j'ai une bonne intention. C'est pas suffisant d'avoir la bonne intention. Il faut non seulement que ton intention soit bonne, mais il faut que l'action soit valable. Il faut que l'action soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala et en accord avec la sunna. Hein? Parce que si tu dis j'ai une bonne intention, mais ton action est contraire à la sharia, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh, il dit, tant qu'elle n'est pas prouvée par le Coran et la Sunna, c'est une bid'a. et elle ne va pas te profiter. Ça va pas être bénéfique pour toi. Hein? En fait, même, non seulement ça va pas être bénéfique, ça va être contre toi. Au jugement dernier, ça va être c'est un péché, en fait. Ok? Et ça ne te rapproche pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit, فَلَا بُدَّ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ الْإِخْلَاصِ وَالْمُتَابَعَةِ لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. فإن دخلها شرك بطلت وإن صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا خالف الرسول فلا طاعة يقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء فإذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم وإنما خالفوا في وإنما ولا تجوز طاعتهم ولا لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول هذه هي العبادة الصحيحة. Donc le cheikh il fait un résumé si on veut de ces deux conditions pour l'adoration et ça ces deux conditions là enseignez-les aux musulmans qui sont autour de vous, de vos familles, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, hein. Transmettez-leur la signification de ces deux conditions-là, parce que c'est très très important et beaucoup de musulmans ne les connaissent pas. Et si vous leur faites comprendre comme il faut ces deux conditions-là, vous allez voir que ça va les profiter en beaucoup de choses et que par la suite leur compréhension de la religion va être grandement améliorée. Donc c'est pour cette raison-là donc qu'il faut bien la comprendre pour pouvoir bien l'expliquer aux autres. Le cheikh il dit il faut absolument que ton adoration respecte ces deux conditions-là. Al-ikhlas wa al-mutaba'a lil rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut que ce soit une adoration qui est faite avec sincérité et pureté dans l'intention et dans le fait qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut également qu'elle soit en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Sinon, elle n'est pas bénéfique et elle n'est pas correcte pour celui qui l'a fait. Le cheikh il dit que si dans ton action il y a une forme de shirk, ça contredit à l'ikhlas. Ça contredit la première condition et donc elle devient nulle, vaine. Et si ton adoration est innovée ou elle est fabriquée, elle ne fait pas partie de la charia, elle n'a pas de preuve du Coran ou de la sunna qui la supporte, alors dans ce cas-là elle est également vaine et nulle. Elle n'a pas de valeur. Et sans ces deux conditions-là, eh bien, il n'y a aucun bienfait à ton adoration, parce que elle n'est pas telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera que ce qu'il a légiféré lui-même dans son livre ou par la langue de son messager, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas personne dans la création qui est obligé qu'on l'obéisse et qu'on le suive. Excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'y a personne qu'on doit suivre et obéir aveuglément, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, obéis-le aveuglément. Tu le suis aveuglément. Tu ne poses pas de questions. Tu ne te poses pas de questions parce que tout ce qu'il dit vient d'Allah et tout ce qu'il dit c'est la pure vérité. Donc tu peux l'accepter et le prendre et le faire les yeux fermés parce que, alhamdoulilah, c'est le haq. Tant que c'est basé sur un hadith sahih, tu peux le prendre et puis tu peux l'appliquer. Il n'y a pas de problème. Hein? Bien entendu, si tu as des doutes ou tu ne comprends pas comment l'appliquer, tu demandes aux ulama pour qu'il te clarifie la façon de l'appliquer. D'accord? Toutefois, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est à ce niveau. Personne n'est à ce degré que tout ce qu'il dit, tu l'acceptes. Personne. Le seul que tu prends tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il te demande, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sont possibles de faire, tous les autres sont capables de faire des erreurs et des fautes et de se tromper. Que ce soit des ulama, que ce soit, peu importe qui ils sont, ils peuvent tous se tromper, donc on ne doit pas les suivre aveuglément. Hein? Même les ulama, même les imams de l'islam, on les suit, mais on les suit uniquement yani, tant qu'ils n'opposent pas les preuves qui viennent du Coran et de la Sunna. Si les ulama ou les umara ou n'importe qui, les dirigeants, t'ordonnent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas les obéir. Hein? Et le cheikh, il mentionne ça et il clarifie ça dans le verset 59 de Sourate An-Nisa qui dit « Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Et le cheikh explique, il dit que les gens qui détiennent le commandement d'entre vous, ce sont qui? Ce sont les dirigeants et ce sont les savants, les ulama. Ok? Donc ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne quelque chose, tu le fais, tu l'obéis aveuglément, tu le suis. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne quelque chose, tu obéis. Parce que Allah a mis devant son nom et devant le messager, devant le nom du messager sallallahu alayhi wa sallam, le verbe atiu, c'est le verbe impératif, d'obéir. Donc ça veut dire, on doit obéir à Allah et au messager, d'une façon absolue. Toutefois, devant ulil amr, Allah n'a pas répété le verbe impératif d'obéir, et donc ça veut dire, comme les ulama l'ont expliqué, que l'obéissance aux dirigeants et aux ulama est conditionnelle. Tant qu'elle est en accord avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, on l'applique. Toutefois, s'il nous ordonne de désobéir à Allah ou de désobéir aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a plus le droit de les obéir dans la désobéissance d'Allah. Le cheikh, il dit, فَإِذَا أَطَعُوا اللَّهِ S'ils obéissent à Allah, il est obligatoire de les obéir et de les suivre. Les ulama et les dirigeants, les savants et les dirigeants, s'ils obéissent à Allah, il est obligatoire de les suivre et de les obéir. Mais s'ils contredisent le commandement d'Allah, il n'est plus permis de les obéir et il n'est plus permis de les suivre dans ce qu'ils ont contredit l'ordre d'Allah et du messager. D'accord? Parce que il n'y a personne qui peut être obéi individuellement, istiqlalan, c'est-à-dire istiqlalan, pas vraiment individuellement, mais indépendamment, c'est-à-dire librement. Il n'y a personne qui, en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est suivi par lui-même ou pour lui-même, pour qu'est-ce qu'il dit lui-même, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste le messager d'Allah qu'on suit de cette façon-là. Mais en dehors de lui, il n'est pas permis, en dehors de lui, il n'est pas permis de suivre quelqu'un aveuglément. Ok. وَمَا عَدَهُ فَإِنَّهُ يُطَعَ وَيُتَّبَعَ Ok. Et les autres, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils obéissent au messager, on l'obéit, et s'il désobéit son messager, on le désobéit. Et ça implique également la question des madahib. Qu'est-ce que les gens, ils suivent des madahib et les imams des madahib? La même chose pour ça, Et quand il va te dire, tu dois suivre l'imam Malik dans tout ce qu'il a dit, dans le madhab. Du chapitre de Tahara jusqu'à la fin, Al-Qadha ou Al-Itq, ou peu importe quel, parmi les chapitres qu'ils ont mis à la fin des livres de fiqh. Il dit tout ce qu'il a dit, l'imam Malik, tu le suis aveuglément à la lettre jusqu'à la fin. Même si ce qu'il dit, tu trouves un hadith sahih dans le Bukhari, dans le Muslim qui dit fais pas ça ou fais ça, le contraire de ce que l'imam Malik a dit, et toi tu dis non, moi je suis l'imam Malik, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le contraire. Ça, c'est interdit de faire ça. Parce que on n'a pas deux ou trois ou quatre ou cinq ou six prophètes, on n'a pas deux ou trois ou quatre ou cinq sharia, on a une seule sharia. C'est le Coran et c'est la Sunna. Et on a un seul prophète, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu prends la parole d'un être humain et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu les mets à égalité, et là ça veut dire que tu as un problème dans ta foi. L'ordre d'Allah, l'ordre du messager, elle passe devant lors de tout autre parmi les êtres humains, même si c'est le plus grand parmi les imams de la Umma. D'accord? Et même les imams de l'islam eux-mêmes, ils ont dit ça. Imam Malik, il a dit ça. Abu Hanifa, il a dit ça. Shafi'i, il a dit ça. Ahmed, il a dit ça. Peu importe quel imam, parmi les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, ils ont tous dit ça. Les seuls qui n'ont pas dit ça, c'est qui? C'est les soufis et les chiites. Ils disent, eux, tu les obéisses absolument et dans tout comme ils décident. Tu dois être comme le mort devant celui qui le lave. Hein? Comme le mort devant celui qui le lave. C'est-à-dire, quand t'es mort, t'es couché par terre, tu peux pas bouger parce que t'es mort. Eh ben, c'est comme ça que tu dois être devant ton cheikh. Hein? Ça, c'est les gens de bid'a, c'est comme ça qu'ils sont avec leur ulama. Et les chiites, la même chose. Ils croient que leur ulama sont infaillibles et qu'ils connaissent le raïd et tout. Et puis, donc, quand ils disent quelque chose, je ne peux pas remettre en question, critiquer ou quoi que ce soit. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, hein, la guidance et la clarté dans la façon dont on doit comprendre et suivre notre religion. Le Cheikh ensuite, il dit, Faïda arafta al-shirk. Faïda arafta. On est rendu à quelle heure, là? 1h07. Ok. Hein? 26 minutes? On a arrêté quelques minutes entre avant la prière et après quand on est revenu on a arrêté un petit peu, donc ça va aller inchallah. Oui, qu'est-ce qu'il dit le cheikh Mohammed ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ensuite à la suite de qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه أو صار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. Le cheikh, il dit, si tu as su maintenant que le shirk, si tu l'as mélangé dans ton adoration, elle va corrompre ton adoration, elle va détruire ton adoration. Alors, non seulement elle va détruire ton adoration, mais celui qui fait le shirk, ça fait en sorte que il va rester parmi ceux qui vont rester éternellement dans le feu de l'enfer. Donc, lorsque tu as compris ça, en fait, tu as compris que la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est de savoir c'est quoi le shirk. Si tu sais que ça va détruire ton adoration, et non seulement tu sais que ça va détruire ton adoration, mais tu sais que tu vas être éternellement en enfer, ben c'est quoi le plus important à savoir? C'est de savoir c'est quoi le shirk pour t'en protéger. Le shirk, il dit, c'est le shirk billah. Et il mentionne la preuve de ça. Et la preuve de ça, c'est quoi? C'est le verset 116 dans Surat An-Nisa. Le verset 116 dans Surat An-Nisa, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Hein? Il pardonne à qui il veut tout autre péché. Mais pas le shirk. Si tu meurs dans le shirk, c'est fini pour toi. Tu vas dans l'enfer pour l'éternité. Tu meurs dans le kufr billah, hein, tu restes dans l'enfer pour l'éternité. Si tu meurs, mais t'as pas fait de shirk, mais t'as fait des péchés, là t'as peut-être une chance. Tu rentres dans, c'est-à-dire, Allah peut te pardonner, tu rentres direct au paradis, s'il veut, par sa miséricorde. Mais peut-être que, il décide de te punir, pour te purifier de certains de tes péchés, donc tu restes un certain temps dans l'enfer, puis après un certain temps, Allah te fait sortir de l'enfer et te rend au paradis parce que tu as la ilaha illallah, tu as le tawhid. Tu vas pas rester éternellement dans l'enfer parce que tu n'as pas rejeté complètement la foi et en même temps, tu as pas commis de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu auras toujours quand même un espoir de rentrer au paradis même si tu es resté un peu de temps en enfer. D'accord? Et le cheikh il dit donc que la façon de connaître le shirk et de connaître le tawhid, c'est de connaître ces quatre principes et ces quatre règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre. Ces quatre règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre. Et c'est ça qu'on va expliquer dans ce livre, inshallah. Donc, c'est maintenant qu'on rentre dans... pas maintenant, parce que là, on va expliquer ce passage-là. Mais tout de suite après, on commence avec la première règle. Inshallah. Le Cheikh, il dit, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكِ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ وَصَارَ صَاحِبُهُ من الخارجين في النار أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة يجب أن تعرف ما هو الشرك لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه فلا بد أنك تعرف أنواع الشرك ومن من أجل أن تجتنبها فإن الله لأن الله حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الشرك الذي هو خطره وهو أنه يحرم من الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ويحرم من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به إذن هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة الله ما حذر من شيء إلا بينه وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك ولا نرجع إلى قول فلان وهذا سيأتي. Le Cheikh explique maintenant ce passage. Il dit que lorsque tu sais que le shirk, c'est toutes tes actions, est-ce qui te fait rentrer en enfer pour l'éternité, etc. Donc il dit, donc tant que tu as connu le tawhid, c'est de rendre ton adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire également de connaître ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le shirk, parce que celui qui ne connaît pas le danger de quelque chose, il peut facilement tomber dans cette chose-là. D'accord? Donc il faut que tu connaisses les catégories de shirk pour que tu puisses t'en écarter parce que Allah subhanahu wa ta'ala a averti les gens contre le shirk et il a dit qu'il ne pardonnait pas quelqu'un qui faisait le shirk, mais il pardonnait tout autre péché à qui il voulait. Et il dit également dans le verset 72 dans Sourate Al-Ma'ida, innahu man yushrik billah, celui qui fait le shirk avec Allah, alors Allah lui interdit l'entrée au paradis. Et il dit وَيَحْرِمُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ, c'est-à-dire que le shirk, ça interdit à quelqu'un le pardon. Il ne pourra pas être pardonné. 47 dans Surat An-Nisa, c'est le même verset que tout à l'heure. Donc il dit ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, on voit que c'est très dangereux. Donc c'est obligatoire de le connaître avant tout autre danger. Hein? On sait que le cancer, c'est dangereux. On sait que conduire en boire de l'alcool, c'est dangereux, et si tu conduis en état d'ébriété, c'est encore plus dangereux, parce que là, tu vas risquer de tuer des gens. Hein? On sait que, quoi d'autre encore? On sait que l'électricité, si on touche à n'importe quelle chose qui peut nous... On dit que tout ça, c'est dangereux. Mais ça, c'est des dangers dans la dunya. Hein? C'est des dangers dans la dunya. On sait que le feu, ça brûle, si on touche, on va se brûler. Ça, c'est des dangers dans la dunya. Mais le danger du shirk, c'est plus dangereux que tous ces autres dangers-là. Pourquoi? Parce que c'est un danger qui risque d'amener ton âme et ton corps dans l'enfer pour l'éternité. Hein? Et donc ça, c'est le plus grand de tous les dangers. Hein? Et donc il faut faire attention à ce danger-là avant tout autre danger. Et le prendre comme une priorité. Et le Cheikh, il dit que donc c'est obligatoire de le connaître avant tout autre danger. Si tu veux te préserver d'un danger, par exemple, tu veux savoir le danger de l'électricité ou bien du gaz ou n'importe quel autre truc, tu vas l'étudier pour essayer de connaître ce danger-là, pour essayer de t'en protéger. Plus tu le connais, ce danger, plus tu vas être capable de savoir comment il va te faire du mal. Eh bien, le tawhid, c'est-à-dire le shirk, c'est la même chose. Plus tu le connais et tu connais les détails du shirk et tu connais les catégories du shirk et les manifestations du shirk, eh bien, plus tu vas être capable de t'en préserver, de t'en protéger et d'éviter de tomber dedans. Mais le danger, le problème actuel aujourd'hui chez les musulmans dans la Oumma, c'est que beaucoup d'entre les musulmans, ils ne connaissent pas le shirk, ils ne connaissent pas les catégories de shirk et donc ils tombent dedans facilement parce qu'ils sont ignorants. Allah musta'an. Donc, c'est pour ça que c'est très important de le connaître. Et quand on dit de le connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire de le connaître, mais selon les textes du Coran et de la Sunna. Pas selon qu'est-ce qu'on peut imaginer, selon nos propres imaginations, mais selon les preuves du Coran et de la Sunna. Maintenant, beaucoup de musulmans, par exemple, ils connaissent, ils savent certaines choses. Est-ce que, oui, je pense que c'est shirk, ou oui, ça, j'ai entendu que c'est shirk. Mais celui dit, ok, c'est quoi la preuve? Il connaît pas la preuve. Hein? Ou bien ils vont dire que quelque chose est shirk alors que c'est même pas shirk. Et ils vont dire que quelque chose c'est correct et ça fait pas partie du shirk alors que ça fait partie du shirk. Et si tu lui demandes les preuves, il sait pas. Parce qu'il a pas pris la connaissance qu'il a du Coran et de la Sunna. Il va dire, ah, j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça. Ou j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça. Et puis la religion d'Allah, c'est pas comme ça que tu dois l'apprendre. La religion d'Allah, tu dois l'apprendre en te basant sur les textes et les preuves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour bien comprendre la religion. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'avertit contre le shirk, ça veut dire qu'il te l'a expliqué, c'est quoi? Parce qu'il peut pas t'avertir contre quelque chose puis t'explique pas qu'est-ce que c'est. Hein? Et donc, il n'y a pas une chose qu'il a ordonnée aux gens excepté qu'il a clarifié aux gens. Il n'a pas interdit quelque chose aux gens, excepté qu'il leur a expliqué d'une façon détaillée. Pas seulement une façon générale, il leur a dit attention au shirk. Non, il a expliqué les détails, qu'est-ce que c'est, et chaque exemple, qu'est-ce qui représente une forme de shirk, il l'a expliqué en détail avec les règles et les conditions qui s'appliquent à tous ces détails-là. Donc c'est très important donc de retourner aux clarifications du Coran et aux clarifications de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans ces deux révélations-là, il y a eu une clarification, une explication détaillée et suffisante de toutes ces choses-là, de toutes ces manifestations-là du shirk. Et donc, si tu veux le connaître comme il faut, tu dois retourner au Coran et à la Sunna pour le connaître, et ne pas retourner aux paroles de quiconque qui peut arriver avec des définitions qui sont contraires à celles qui sont dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis après la pause, on va continuer avec la première règle des quatre règles, Inch'Allah. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.